RFI.
Et pour commencer, c'est aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour.
Bonjour Michael.
En Afrique du Sud, le gouvernement a reconnu il y a quelques jours avoir mis la main à la poche pour renflouer Eskom, la compagnie nationale d'électricité, qui a une nouvelle fois frôlé le dépôt de bilan à 3 semaines des élections. Les déboires de cette entreprise publique constituent un véritable problème pour le président Cyril Ramaphosa, qui est candidat à sa réélection.
Oui, Eskom fait partie du quotidien des Sud-Africains et souvent, pour le pire, des quartiers entiers des grandes villes sont régulièrement à l'arrêt, faute d'électricité. Les délestages sont devenus monnaie courante ces dernières années. En théorie, pourtant, Eskom produit et fournit du courant pour 90% de la population. Mais l'entreprise n'est plus capable d'assurer ce service. Ses centrales vétustes, mal entretenues, tournent au ralenti. Les mauvaises langues assurent qu'elles sont exploitées en ce moment au maximum et que la lumière ne va pas tarder à s'éteindre au soir du 8 mai, la date du prochain scrutin.
Et Dominique, comment est-ce que Eskom en est arrivé là?
Eh bien, cette entreprise bientôt centenaire, elle a été créée en 1923, a eu beaucoup de mal à suivre l'accélération de la croissance sud-africaine, d'où les premières pannes d'électricité qui surviennent en 2007. Si Eskom manque alors de réactivité, c'est déjà parce qu'elle manque de moyens financiers. Elle souffre des impayés historiques monstrueux. Pour la seule ville de Soweto, l'ardoise se monte à 1 milliard d'euros. Pendant l'apartheid, refuser de payer était un acte de résistance et cette pratique perdure encore aujourd'hui, surtout bien sûr pour des raisons économiques. Dans cette grande entreprise très bureaucratique, opaque, la corruption a trouvé un nid douillet idéal et l'a explosé pendant la présidence de Jacob Zuma. Avec la complicité active des frères Gupta, ils ont réalisé plusieurs opérations juteuses avec Eskom pour mettre la main sur les mines de charbon fournissant les centrales électriques sud-africaines.
Et c'est pendant cette période, Dominique, qu'Eskom a beaucoup investi dans 2 nouvelles centrales au charbon.
Oui, alors ces projets pharaoniques ont complètement déraillé, leur budget a doublé et par conséquent, ils ont surtout plombé les comptes de l'entreprise et privé les centrales vieillissantes de programmes de maintenance. Ces défauts expliquent en grande partie les délestages actuels. Sous la présidence Zuma, le charbon et l'atome sont privilégiés au détriment des énergies renouvelables, une stratégie coûteuse et aujourd'hui remise en cause, mais difficile à corriger car des engagements financiers ont été pris. Selon le ministre des Finances, la société ne générera pas suffisamment de cash pour honorer ses remboursements pour les 5 prochaines années. Sa dette totale se monte à 30 milliards de dollars, 26 milliards d'euros.
Et face à cela, les Chinois ont été appelés à la rescousse, mais ils n'ont finalement pas tenu leur engagement.
Oui, la China Development Bank devait payer en mars une première tranche. Elle devait verser donc une partie d'un prêt de plus de 2 milliards de dollars, mais elle n'a pas pu sortir l'argent de ses caisses. D'où l'intervention urgente du ministre sud-africain des Finances pour renflouer la société, car toute la dette d'Eskom est garantie par l'État. Si l'entreprise fait défaut, c'est la dette souveraine sud-africaine qui trinque. Le sort de l'entreprise et celui du pays sont étroitement liés. C'est pourquoi la survie d'Eskom est un enjeu majeur de la campagne électorale. Les déboires de l'entreprise reflètent ceux d'une économie prometteuse, mais qui est aujourd'hui en triste état. D'après l'indice de gouvernance publié par le cabinet spécialisé en risques politiques Eunomics, l'Afrique du Sud traverse depuis 12 ans une période de déclin comparable à celui d'un pays en guerre.
En bref, Dominique, les Chinois sont en train de déstabiliser le marché mondial du cochon.
Leur élevage est décimé par la peste porcine africaine. La Chine, qui est le premier producteur et le premier consommateur au monde de porc, va donc mettre les bouchées doubles pour en importer davantage. Sur le marché français, les cours ont déjà augmenté de 19% en un mois et la hausse va se poursuivre au deuxième trimestre.
Dominique Bayard.